Bien, bah, salut à tous. Donc moi, je m'appelle Christophe Pécou. Donc je suis chercheur à la faculté des sciences du sport de Lille. Donc le sport, le punk, bon, quel lien. Je suis surtout l'exovien, donc je suis normand. Je suis musicien, je joue dans un excellent groupe qui s'appelle le Bruce Lee Football Club.
On va
Donc,
programmer une partie. Tu joueras au
je
trois-pièces
fais
incessamment.
donc partie du collectif avec Estelle qui s'appelle Punk is Not Dead. Donc, qui est un collectif de chercheurs qui s'intéresse, comme disait Étienne, bah, à l'histoire du punk en France, parce que l'histoire du punk en France, bah, elle est peu connue, mal connue. Donc, notre objectif, bah, c'est voilà, c'est d'essayer de comprendre comment ce mouvement culturel, hein, puisque ça, on s'attache à la musique, on s'attache aussi aux arts graphiques, on s'attache au discours, etc. Donc comment ce courant a émergé en France? Est-ce qu'il a des particularités par rapport à l'Angleterre, par rapport aux États-Unis, hein? Qui plus est, avec Essel, on travaille vraiment sur la Normandie. Donc est-ce que la Normandie, dans cette histoire nationale, est-ce qu'il y a une spécificité? On pense que oui. Donc on va essayer de vous le démontrer. Et donc voilà, l'objectif du collectif, hein, avec des chercheurs qui sont aussi des passionnés, comme tu dis, il y a des musiciens aussi, mais il y a aussi dans le collectif des acteurs. Donc c'est pas que des universitaires qui se regardent dans la glace en disant on a trouvé la solution, hein. Non, c'est de partager voilà, avec les acteurs, alors plus anciens ou récents, parce que c'est de 76 à 2016, donc c'est les 40 ans, essayer de comprendre... Comment ce mouvement s'est développé, s'est essaimé, et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce que le punk est mort? Donc, a priori, bah, nous, on pense pas. Pour certains, il est mort en 78. Donc voilà, ça pose à plein de discussions. Donc voilà, ce collectif-là, il essayait, entre guillemets, de scientifiser un petit peu, parce que cette histoire du punk, elle est surtout, surtout les journalistes. On va dire les rock critiques qui l'ont écrite, bien ou pas bien, selon. Donc nous, c'est d'essayer voilà, de remettre un peu les choses en perspective, comme tu disais, sur l'histoire, à quel moment historique ça arrive, quels sont les liens avec la culture, quels sont les liens avec les productions, les lieux de pratique, les concerts, enfin, etc., etc. Donc voilà, nous, voilà, on essaie vraiment de brosser un peu un tableau. Sans, comme tu dis, sans nostalgie, hein, c'était mieux avant, on s'en fout. Le but, c'est voilà, d'essayer de comprendre que ce mouvement-là, bah, 40 ans après, on en parle encore. Pourquoi on parle encore 40 ans après du punk? Il y a l'expo 106 là, sur les 40 ans du punk, il y a différentes expos dans toute la France sur les 40 ans du punk, on fête les 40 ans du punk, donc l'année prochaine, on n'en parlera plus. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est punk? Qu'est-ce qui est pas punk? On parle toujours de voilà, t'es punk, voilà. Bon, il y a pas de définition à donner, c'est pas notre but non plus. Et donc ce travail-là, bah, il est mené depuis 2 ans déjà, et il s'organise autour de plusieurs points. Et on va venir à la violence après, hein. Mais juste pour expliquer voilà, sur les différents points qu'on aborde. Alors, Estelle, vas-y si tu veux.
Donc moi, je suis Estelle Girard et je travaille aussi comme Christophe dans la recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, dans un laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Donc, on est des sociologues, des historiens, des anthropologues, des philosophes. Et donc, l'intérêt interdisciplinaire, c'est ce qu'on retrouve dans notre projet, parce que le collectif dont parle Christophe, c'est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et qui rassemble non seulement donc, des chercheurs de toute la France, mais aussi, comme l'a dit Christophe, ce qu'on appelle, nous, des acteurs de la scène, c'est des musiciens, des programmateurs, des disquaires, des journalistes, des gens qui ont fait des fanzines, des éditeurs, pour essayer de réfléchir comment chacun, à sa manière, a pu s'attacher ou rendre compte de la manière justement dont s'est organisée la scène punk en France. Donc ça s'appelle la scène punk parce qu'on part quand même de la musique, des musiciens. Et pour compléter juste et présenter ensuite les chantiers qu'on a pour ce programme, simplement aussi dire peut-être que c'est le premier programme de recherche, ça, qui essaye de faire accéder le punk en tant qu'objet d'étude. C'est pas évident quand Solveig, alors les personnes qui dirigent entre guillemets le programme s'appellent Solveig Serre et Luc Robben. Et quand Solveig a déposé son programme de recherche au CNRS, on lui a expliqué que ça relevait du canular scientifique. Donc justement, c'était intéressant de voir comment est-ce qu'on peut essayer de faire accéder ce mouvement punk à une légitimité à la fois thématique ou scientifique, ou en tout cas de montrer en quoi ça peut représenter c'est un prisme décisif pour expliquer les modes de résistance et d'innovation ou de contestation sociale, culturelle, à la fin du XXe siècle. C'est peut-être le mouvement de contre-culture du XXe siècle qui n'a pas du tout, contrairement à d'autres précédemment, encore acquis une légitimité, pas forcément scientifique, mais en tout cas culturelle. Et pour compléter aussi juste la présentation, parce que c'est important pour tous les acteurs que vous êtes ici à Rouen, c'est que en plus du volet scientifique ou historique qu'on a, qui est à travers toute la France, parce qu'on vous expliquera, on fait des journées d'études partout en France, on a aussi un volet qu'on appelle patrimonial, qui consiste en fait à collecter et conserver les archives des groupes, les archives des salles, les archives des disquaires, de toutes les personnes qui ont de près ou de loin eu envie des graphistes, enfin de toutes les personnes qui peuvent avoir des archives personnelles. Et on a des partenaires institutionnels, donc le CNRS, les universités, la Philharmonie, des salles avec lesquelles on travaille, mais aussi des associations. Et on a aux Archives nationales un collègue qui s'appelle Vincent Bois, qui dirige la mission des archives du ministère de la Culture et qui, sous son costume trois pièces, écoute du punk depuis toujours et qui a trouvé le projet formidable et qui nous aide à collecter et qui a ouvert une ligne aux Archives nationales pour qu'on puisse collecter les archives. Il y a déjà des groupes qui ont commencé à nous verser leurs archives, donc c'est vraiment un appel à, si vous avez des archives que vous considérez intéressantes pour l'histoire du punk, il faut nous le faire savoir. On peut se déplacer pour venir numériser tout ça. Il y a déjà les Salles Majesté qui ont versé toutes leurs archives, la radio éphémère à Toulouse, ils nous ont tout donné aussi, et donc ça permet un traitement de sauvegarde, de préservation, de catalogage, et ça devient des vraies sources pour l'histoire et des vrais documents pour l'histoire. Donc ça, c'est quand même un volet très intéressant du programme. Et puis aussi, moi, je trouve ce qui est le plus intéressant, c'est l'interdisciplinarité autant dans la recherche que en transversale et d'avoir accès à toutes les personnes qui ont pu participer à ce mouvement. Donc, pour continuer, on a structuré le projet. Il a plusieurs chantiers. On appelle ça des chantiers. Le premier, tu veux que je commence?
Oui, vas-y, commence. Je prendrai le deuxième.
Ouais. Le premier chantier s'intitule « Historicité et généalogie ». Donc on essaye de voir comment un mouvement qui, comme disait Christophe tout à l'heure, certaines personnes ou certains groupes considèrent qu'après 78, il n'y a plus de punk. Quand un mouvement s'appuie sur des revendications comme No Future, comment ça se fait que 40 ans après, on considère encore qu'il existe des groupes punk, la musique punk? Donc c'est pour ça aussi que ça s'appelle Punk is not dead, qui continue évidemment. Donc on essaye de voir à travers ce chantier-là la notion de génération, de durée, de l'inscription dans une durée historique. Donc ça, c'est le premier chantier sur lequel on travaille. Le deuxième, qui est le corollaire en fait de celui-là, c'est sur le vieillissement et la mémoire. Donc c'est un chantier sur la notion de vieillissement. En fait, d'essayer de voir aussi comment est-ce que se fabrique une réalité ou une mythologie punk, jusqu'à quel point en fait la tradition s'invente et qu'est-ce qu'on invente avec ce truc-là. Si certaines personnes, acteurs eux-mêmes de musique en 78, ont décrété que c'était mort, pourquoi est-ce qu'on continue de parler de punk et à quoi ça sert de se revendiquer punk quand les acteurs principaux ont décidé que c'était terminé 2 ans après Donc ça, c'est le deuxième chantier. Tu fais l'autre?
Le troisième, alors c'est plus la question de la médiatisation du punk. Donc c'est tout le rôle, là j'en parlerai un peu tout à l'heure, différents médias, on va dire des médias classiques, presse, écrite, TV, etc., jusqu'aux fanzines. Donc comment on se représente aussi le punk en 77 dans Ouest France ou dans, je sais pas, le journal de Rouen, voilà, comment on l'écrit, comment on le voit, et comment cette culture aussi nouvelle et un peu ouais, sous-culture, hein, et comment elle devient aussi au fur et à mesure un peu mainstream, c'est-à-dire comment elle est reprise par les médias, la pub, etc., la mode, etc. Donc chez H&M, on peut trouver des t-shirts, des Ramones, voilà, donc sans, on demanderait voilà, aux jeunes filles qui achètent le t-shirt, est-ce que tu connais, non, le logo est sympa, je l'achète, hein, voilà, donc, ou... le t-shirt Anarchy in UK, enfin, ou le drapeau, voilà. Donc, il y a toute cette question de la médiatisation, hein, comment il est vu.
La construction, en fait, à chaque fois, ce qu'on essaye de voir, c'est comment les choses se construisent sur le moment ou a posteriori, donc c'est toujours dans la dimension historique.
Le quatrième, bah, c'est plus le côté artistique, esthétique. C'est quoi l'esthétique punk? Comment elle a évolué? Donc la semaine dernière, on avait une journée d'études à Paris justement sur la culture visuelle du punk. Donc il y avait par exemple Kiki Picasso de Bazooka, il y avait des photographes pour Rock and Folk, il y a Surinsky qui expose au 106 ses photos. Alors je sais pas si c'est les photos sur Détroit, sur les Stooges et la scène de Détroit. Donc voilà, c'est comment
De Détroit qu'elle expose.
Ouais. Donc voilà, donc il y a des artistes qui sont aussi avec nous dans le projet. Donc comment cette esthétique elle a évolué, comment aujourd'hui, bah voilà, par exemple un punk ça a forcément une crête, quoi, voilà. Donc la représentation du punk, c'est celui qui a la crête. Si t'as pas de crête, t'es peut-être pas punk. Enfin voilà, bon, ça pose plein de questions, hein. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, au début il y a pas de crête, hein, et puis à un moment il y a une crête, et puis aujourd'hui voilà, il y a évidemment tout ce qui est fanzine, tout ce qui est art graphique, le graphe, etc. Donc il y a toutes ces questions là autour de l'esthétique. Ensuite, un autre axe, c'est le core punk, c'est-à-dire comment on se représente aussi le core punk. Donc là, on a un spécialiste anthropologue qui travaille sur les modifications corporelles, montrer que, par exemple, les premiers perceurs, les premiers tatoueurs viennent du mouvement punk. Et comment, voilà, le corps punk peut être représenté par le tatouage, par le piercing, la boucle d'oreille, comment les pingues à nourrice dans la bouche ou dans le nez, etc. Comment le corps punk aussi s'exprime sur scène, c'est-à-dire qu'il y a aussi une gestuelle sur scène qui justement qui peut paraître violente pour le public, hein. Voilà, on peut aussi se violenter le corps, drogue, alcool, etc. Donc voilà, on impose aussi une violence à son corps qui fait que, bah, aujourd'hui il y a quand même pas mal de punks qui sont morts. Donc il y a la question de la vulnérabilité des corps, c'est-à-dire que voilà, à 50 ans, hein, si on est un vrai punk, on est mort, quoi, en principe. Donc voilà. Donc il y a cette question-là du punk, enfin du corps punk, qui peut être intéressante à travailler. Estelle, le genre.
Ah, le genre, c'est pour moi. Ouais. Donc évidemment, à chaque fois, comprenez bien que c'est des questions qu'on essaye d'aborder dans la manière dont tout ça est perçu par la société, comment est-ce que ça se construit comme objet, etc. On n'est pas en train de décrire simplement les choses, mais d'essayer de voir la portée de la construction sociale de toutes ces identités et en quoi est-ce que les gens sont reconnus ou pas. C'est un vocabulaire que tout le monde connaît aujourd'hui, n'importe quelle personne de n'importe quelle génération utilise l'adjectif punk, on essaye de voir ce que ça recouvre. Donc tout ce programme-là, évidemment, on est dans cette dimension-là. Et donc on a aussi un chantier à ce sujet sur le genre et comment se jouent les relations de genre dans le punk, à savoir la place de la femme, la place des filles, dans les groupes, dans les paroles. Donc à chaque fois, on va vraiment dans toutes les dimensions. Sur la question donc de l'implication particulière des filles, la prédominance, on peut constater quand même la prédominance d'un milieu hétéro dans le punk, de la scène punk en tout cas, qui est pas au début en tout cas très très homo ou très LGBT, ce qu'on peut voir aujourd'hui. Comment les filles investissent ou non la scène, comment est-ce qu'on est engagé dans des postures féministes ou pas, aux États-Unis beaucoup, en France très peu, façon Riot Girls ou pas du tout. Donc toute cette implication genrée et aussi jusqu'à, évidemment, de nouveau, on revient sur l'histoire. Donc les chantiers sont évidemment transversaux, puisque là, on a retour sur la question du corps, sur la posture, sur l'esthétisation ou pas, sur l'érotisation ou pas des corps dans les questions de genre, à travers la tenue, à travers tout ce qu'on peut imaginer qui peut être visible ou rendu visible, exagérément ou pas, et dans la construction de ces questions de genre. J'en refais un, parfait.
Oui, vas-y.
On en est où ? Alors après, oui, il y a un autre chantier qu'on a qui est le plus, celui qui prend le plus de temps, à mon avis, c'est qu'on a entrepris une cartographie, c'est-à-dire les géographies du punk en France, et qu'on a un chantier qui permet de s'intéresser à la circulation des scènes en France, et on fait des journées d'études en région, où on peut, donc on va vous présenter celle qu'on fera au printemps 2018 à Rouen. Mais on a déjà commencé des journées d'études, on a eu des journées à Toulouse, sur la scène punk à Toulouse, à Caen, à Nantes, enfin Montaigu et Nantes.
Qu'on
a fait encore. Et là, on va avoir à l'automne, on a Nancy chez Narcisse.
Ouais.
Lyon.
Rennes
aux trans. Pendant les trans, en décembre, on va à Rennes. Et donc, à chaque fois, on observe comment est-ce que le réseau s'est tissé à la fois sur le réseau régional et comment est-ce que les scènes avaient des relations ou pas, indépendamment des concerts qui peuvent être des lieux qui sont évidemment les lieux où les groupes tournent. Mais d'essayer de voir. On essaye de détecter, d'analyser le rôle des passeurs qui ont été les tourneurs, de voir comment est-ce que, en fonction des lieux, les groupes ont joué ensemble ou pas à travers, et comment est-ce que les spécificités régionales se sont construites. À Toulouse, moi j'étais assez étonnée, je ne connaissais pas du tout, vous connaissez peut-être Toulouse, moi je ne connaissais pas les groupes punk de Toulouse, je ne connaissais pas l'histoire de Toulouse, et c'était impressionnant de voir comment c'était ancré dans une histoire régionale très particulière, avec l'arrivée du gouvernement espagnol en exil après Franco, et donc avec tout ce terrain complètement anarchiste, très militant, et où de la scène punk a une dimension très particulière. Et à chaque fois dans les régions, quand on va, c'était pareil, à Montaigu, moi je ne savais pas qu'il y avait une telle scène punk à Montaigu, quoi. C'est extraordinaire de voir l'histoire à chaque fois, et du coup on découvre comme ça, et on arrive à faire on aura Montpellier, Bordeaux aussi, Tarbes. Ouais. Et puis Pontarlier, et puis encore une autre. Et donc à Rouen, avec Lisieux. Christophe, on va vous convier au printemps 2018, à Lisieux, bien sûr, pardon, crève-cœur en Auge, ceux qui connaissent. Et au printemps, on va essayer de rassembler à Rouen donc des musiciens de toutes les générations, donc des vieux...
Très vieux.
De très vieux punk rouennais. Très très vieux, jusqu'aux jeunes, qui encore plus jeunes que ceux qui nous accueillent aujourd'hui. Et puis pour essayer de revenir un petit peu sur la constitution de la scène locale, on aura aussi l'occasion de rassembler, de faire des tables rondes pour discuter avec les gens qui tenaient des salles à l'époque ou qui y ont participé. Comme il y a déjà des gens qui nous ont répondu positivement, comme notre fameux Étienne Cornet, qui était Monsieur Rock à Rouen dans les années 80 et qui nous avait permis d'avoir des salles pour faire des concerts. Il y avait aussi, et puis tous les gens qui ont pu, du studio 44 à l'Exo 7, et peut-être aussi jusqu'au bar dans lesquels vous pouviez jouer au 125e ou autre, voire un petit peu jusqu'à aujourd'hui, les gens qui font les concerts, alors ils qui traînent aux trois pièces ou quoi, de voir comment est-ce que tout ça circule. Et il y a aussi évidemment les gens qui ont permis la diffusion de la production, donc les disquaires. Donc pour Rouen, c'est quand même assez facile avec Mélodie Massacre, avec tout le travail que fait Claude Levieux déjà, avec toutes les archives qu'il fait pour Rouen. On a aussi des gens tout à fait qui ont déjà fait le boulot, qui nous ont bien préparé tout ça, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes. Et puis évidemment les musiciens qui voudront venir parler de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils feront de leur musique et de ce qu'ils peuvent considérer punk ou pas aujourd'hui et de ce qu'il en reste ou de ce qu'ils en faisaient à l'époque. Donc ça, ce sera au printemps 2018. On n'a pas encore le lieu, on est en négociation pour faire ça très joliment dans l'auditorium du Musée des Beaux-Arts, qui n'a pas peur d'accueillir des vieux punks, mais ça coûte un peu cher, donc on essaye de négocier. L'avantage, c'est que c'est vraiment central et que s'il y a plein de gens qui viennent, comme nous, on a beaucoup de chercheurs qui viennent de partout et de Paris, ça permet vraiment d'aller à pied de la gare à l'auditorium, et ensuite ce sera suivi d'un concert aux trois pièces. Donc ce serait vraiment l'idéal, parce que tout ça se fait... Mais bon.
L'image est belle, quoi.
En plus, c'est super beau, quoi, de faire
l'image est belle, le punk au Musée des Beaux-Arts.
Ce serait super bien. Donc il m'a dit oui tout de suite. J'ai négocié, il m'a dit oui tout de suite, mais il faut encore trouver un peu de sous. Donc on en est là. Oui, parce qu'on a aussi, donc, et à Paris pour terminer, après on va continuer sur le dernier chantier, on a des colloques et des journées d'études qu'on fait, et on est accueillis très généreusement par la Philharmonie de Paris, qui nous fait grâce de ces lieux et de ces moyens pour. Donc là, on voit que c'est plus, ça relève plus du canular scientifique, mais que ça a l'air de tout à coup intéresser la culture sans forcément qu'on. Donc c'est à nous de faire en sorte que ce soit pas récupéré pour des causes inutiles, d'où la question de la résistance, de la contestation sur laquelle ce mouvement se base ou continue d'exister.
Vous ne mettez pas le calife à contribution pour...
Si, bien sûr, mais tu vois, le calife, c'est, on voulait y aller, mais c'est un peu loin, tu vois. Bien sûr, il y a le calife, excuse-moi, je ne l'ai pas dit, bien sûr. Mais et tout de suite, il nous a proposé, mais on ne peut pas tellement tous se trimballer au calife et revenir après. C'est un peu loin, non? Enfin, je sais pas, je... Je sais pas. Bah, peut-être ce sera au calife. Si l'auditorium, on n'arrive pas à trouver moins cher, on ira au calife, je pense.
Donc, dernier point qui nous intéresse ici, c'est la violence punk. Donc ça, c'est un grand chantier.
Qu'est-ce
qu'on entend par violence? Est-ce que le punk est plus violent que d'autres styles musicaux? Quel type de violence? Quelle forme de violence? Donc on va essayer de parler un petit peu de tout ça maintenant, en essayant de donner aussi un peu d'exemple, on va dire, des groupes locaux. Alors, Estelle connaît plus les groupes rouennais, moi je connais beaucoup plus les groupes cannais et autour de Caen. Donc ça pourra donner un aperçu un petit peu de ce que revendiquaient ces différents groupes. Mais avant d'aller sur la violence, je voudrais revenir juste sur parler justement du côté historique du punk. Qu'est-ce qui fait que le punk, à un moment donné, il investit la Normandie, on va dire? Est-ce qu'il y a une spécificité dans cette Normandie? Alors, il y a plusieurs choses. Si on le replace un petit peu dans le contexte, c'est que si on regarde la Normandie fin des années 70, il y a quand même une violence sociale, une violence économique. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises, c'est le début de la désindustrialisation, le port du Havre par exemple, le port de Rouen. Donc il y a quand même essor du chômage, il y a beaucoup de fils d'ouvriers qui ont un avenir un petit peu incertain. C'est soit je vais bosser à l'usine ou soit je vais au chômage. N'oublions pas non plus il y a le service militaire. Donc tous ces fils d'ouvriers qui vont, pour beaucoup, qui vont monter des groupes par la suite, ils ont déjà une culture, culture ouvrière, et puis ils sont déjà dans une certaine violence sociale, hein, pour avoir discuté avec beaucoup de vieux musiciens du Havre, quand on habite au Havre à fin des années 70, déjà la ville est pourrie, il fait pas beau, machin, et tout le monde le dit, Little
ça,
Bob le premier.
Les années 70, il fait pas beau. Ah.
Donc oui, Little Bob le premier à le dire, quand il arrive d'Italie, il hallucine en arrivant au Havre. Et donc le punk pour eux, ça va être aussi un moyen de cracher à la gueule, hein, c'est ce qu'il dit, cracher à la gueule du monde, quoi. C'est-à-dire trouver un moyen d'exprimer un peu cette violence qu'ils ont au fond d'eux, quoi. Donc il y a tout ce côté un peu économique et social qui fait qu'on retrouve en Angleterre, hein, à Manchester ou dans les villes comme ça, où le punk ça va être un moyen de contester sa condition sociale, de revendiquer des choses, de faire des choses même justement, de faire soi-même, do it yourself. Donc c'est toute cette jeunesse-là qui a 14, 15 ans, ça va être un révélateur quand ils vont entendre les Sex Pistols, les Dames, les Ramones, etc. Donc ça va être ça va leur offrir en gros une perspective un petit peu qui durera un certain temps selon, mais c'est pour eux un moment de libération.
Il y a une autre chose aussi qu'on peut compléter, je t'interromps, mais c'est normal, c'est que en 76 ou en 77, il n'y a pas de salle pour faire des concerts. Donc à part les groupes qui sont programmés dans des grandes salles et qui sont de la variété française ou du rock, c'est de la pop, folk. Il n'y a pas de moyen de diffusion des musiques urbaines. Et c'est aussi pour ça qu'il faut bien penser à intégrer toutes les dimensions sociales dans cette diffusion de musique. Parce qu'on fait pas on fait de la musique si on peut en faire. Et en 60, jusqu'en. Il n'y a pas de MJC, sauf dans quelques banlieues rouges où il y a des salles de conseils populaires ou avec des concerts. Mais il n'y a pas de moyen de diffusion non plus. Il n'y a aucune chance de faire un disque sans passer par des grosses majors. Donc ça, en France, mais en Angleterre aussi, et c'est un contexte urbain très particulier d'années Giscard et d'agonie du gauchisme post-68, où les gens n'ont déjà plus qu'est-ce qui... Il y a 10 ans après 68, les gens, ils ne savent pas du tout, même pas 10 ans après. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. On est dans une situation... Il y a un contexte historique qui est vachement important, avec un décor urbain particulier.
Pour revenir sur les éléments qui peuvent qui ont fait naître le punk en Normandie, hein, je parle, après on peut retrouver des similitudes dans d'autres régions, hein. Donc il y a ce contexte un peu social économique, donc pas la dominance folk, rock progressif, variété, baloche et compagnie, donc qui fait que les jeunes s'y retrouvent pas non plus. Et donc un des déclencheurs aussi de ce mouvement punk, ça va être les concerts qui sont organisés. Les premiers concerts punk organisés en Normandie, la ville du Havre, c'est la première ville où vont aller jouer par exemple les Ramones en 76 avec les Talking Heads. Est-ce que c'est punk ? Ça fait partie du mouvement punk américain. Vous avez les Stranglers qui viennent jouer en 76 aussi. Vous avez les Damned en 78. Et bien évidemment, à Rouen, vous avez les Clash qui viennent jouer le 25 avril 77 au Chartreux, plus d'autres, etc. Donc la venue des groupes punk en Normandie, alors via le Havre, parce qu'ils arrivent d'Angleterre, donc c'est le port où ils arrivent. Et donc ça a aussi un effet sur la jeunesse, on va dire la minorité, puisque les concerts des Clash ici, c'est 250 personnes. Hein, c'est pas. Et les Stranglers au Havre, c'est 60 personnes dans la salle, donc c'est pas non plus. Voilà. Donc c'est une minorité de jeunes qui va voir en vrai. Alors à côté de ça, il y a aussi tout le pub rock, hein, il y a le Dr. Feelgood, etc. Donc tout ça crée aussi chez ces jeunes-là une envie de l'écouter, d'aller se renseigner, de lire la presse, mais aussi à un moment donné de prendre une guitare, etc. Et puis monter des groupes. Il y a quand même pas mal de musiciens havrais ou rouennais qui ont vu Clash ou d'autres et qui ont eu envie de monter un groupe. Éphémère ou non, mais ça a permis ça. Donc le fait qu'après, bien évidemment, à Rouen, avec le Studio 44 et l'Exocet, bien évidemment, il y a eu beaucoup plus de groupes. Ce qui est intéressant au Havre, c'est que celui qui organise les concerts des Ramones et des Stranglers, ça passe via l'association du foot, enfin du sport. Il y a l'association sportive des agents municipaux. C'est le père de Philippe Garnier, celui qui tient le magasin de disques s'appelle Crazy Little Thing. Et c'est grâce à l'association sportive qu'il arrive à faire venir les Ramones, les Stranglers, etc. Donc il y a tout un micmac autour. Et donc c'est la salle Franklin. Ensuite il y aura la salle François 1er qui fait que le Havre devient dans les années 80 la ville rock en France. On la juge comme ça. Donc voilà. Ça veut dire que la Normandie aussi, ces spécificités très rock. Autre spécificité, normande, c'est que la Normandie, elle a quand même deux groupes phares. Depuis 71, c'est Little Bob Story, qui tourne dans toute la Normandie. Alors là, ils font toutes les salles des fêtes, les MJC, les salles de casino, etc. Donc Little Bob Story, il impulse aussi une dynamique locale. Il va faire jouer ensuite un certain nombre de groupes en première partie, dont les Dogs, puisque l'autre grand groupe, c'est les Dogs. À partir de 73-74, ils se montent et...
pas un grand groupe à l'époque.
Ils arrivent, ils tournent, il y a un nouveau style de musique que les gens écoutent, etc. Donc ils font des reprises. Mais ces deux groupes-là, ils sont quand même... ils vont être à l'origine de l'arrivée de plusieurs groupes, parce que les Olivenstein, ça va être la suite. Donc ils vont faire la première partie, etc. À Caen, le groupe phare, vous ne connaissez peut-être pas, c'est Bye Bye Turbin. Donc, qui est créé en fin 76, donc c'est un des premiers groupes punk en France, on pourrait dire. Donc lui à Caen, il tourne à Caen et de son public va naître différents groupes de punk qui dureront 2 mois, 3 mois, mais ça fait partie de l'aventure punk. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des groupes qui sont défricheurs du terrain, parce qu'il n'y a rien, comme tu disais, il n'y a pas de salle pour jouer, donc on essaie de jouer où on peut. À un moment donné, par exemple, Bye Bye Turbin va jouer dans un CAT, donc avec des enfants handicapés, ils vont foutre le bordel, etc. Enfin voilà, on trouve des salles où on peut. Les MJC ensuite, parce qu'il y a la MJC d'Hérouville-Saint-Clair qui va devenir en banlieue cannaise, hein, qui va devenir la salle référence du punk normand. Jusque dans les années 90, hein, il y aura un paquet de concerts de la première génération et de la deuxième génération punk. Hein. Donc ces groupes-là, ils défrichent quand même, voilà, un petit peu le paysage local, hein, je veux dire, qui est plutôt dominé par, bah, vraiment, quand on regarde un peu les groupes, le rock progressif, beaucoup de folk, donc forcément la confrontation punk et folk, voilà, du rockabilly, puisque le grand groupe rockabilly normand, c'est les Alligators, et donc les Alligators qui feront plusieurs albums. Hein. Donc voilà, il y a des confrontations aussi musicales qui font aussi que le public, à un moment donné, il va aussi se confronter. Donc là, question de la violence. Hein. Il y a un autre point aussi qui est important, qui fait que le punk se diffuse en Normandie, c'est la proximité avec l'Angleterre. Puisque Le Havre avec le ferry, ou Dieppe avec le ferry aussi, puis ensuite Cherbourg, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de musiciens, ou de jeunes, avant d'être musiciens, qui vont aller à Londres, enfin Portsmouth, puis ensuite Londres, et puis qui vont un peu se confronter au punk de Londres. Donc ils vont voir, entre guillemets, les vrais punks, entre guillemets. Hein. Ils vont assister à des concerts au Marquis, ils vont assister, voilà, ils vont aller dans les magasins, ils vont, etc. Donc ils vont voir ça de près, ils vont lire, par exemple, le New Musical Express, le magazine qui va parler, voilà, des punks, ils vont acheter des 45 tours. Quand on habite Le Havre, ou à Rouen, je ne sais pas, mais quand on habite Le Havre, on peut choper la BBC. Donc on peut écouter les premières émissions de John Peel. Donc les premiers morceaux des Damned, des Sex Pistols ou des Clash, ben là on peut les entendre par la radio, on peut les enregistrer sur des cassettes, enfin voilà, etc. Donc cette proximité, elle est récurrente parce que la deuxième génération, elle va aussi en Angleterre et peut-être qu'aujourd'hui encore. Mais le fait de se confronter un peu au mythe un peu punk anglais, voilà, ça. Généralement, quand ils reviennent, bah, ils sont encore plus marqués, ils veulent encore plus faire de la musique. Donc voilà, cette proximité, c'est quand même une spécificité normande, hein, parce que voilà, la géographie fait qu'on est comme ça. Donc, mais quand on, voilà, pour avoir interrogé pas mal d'anciens et de moins anciens, ils ont au moins fait plusieurs voyages à Londres pour aller voir ce qu'était le punk anglais. Donc, est-ce que voilà, se reconnaître des choses, etc. Enfin, il y a plein de. De quoi ? Vas-y.
Mais par exemple, Eric Tandy, qui travaillait chez Mélodie Massacre à l'époque, le raconte toujours en disant que pour cette histoire de spécificité normande, c'est que tu parlais des Dogs, mais c'était pas. Bien avant 76, Dominique avec Mimi et Zox, ils jouaient, ils écoutaient. Ce qu'on écoutait en 74, c'est-à-dire il écoutait les New York Dolls, les Kings, les Stooges, MC5, et personne parlait de punk du tout. Mais ce qui est important, donc la spécificité, comme tu disais, de la proximité avec l'Angleterre, c'est quand Eric ou Lionel Hermani ramenaient des disques d'Angleterre et qu'ils écoutaient, ils disaient que Eric raconte qu'en Noël, pour le Noël 76, Dominique lui a apporté le premier 45 tours des Pistols, et il a dit que là ils ont pris vraiment une claque, et c'est à cette date là que Dominique s'est coupé les cheveux. Eric Tandy aussi dit, moi aussi du coup j'ai pris un rasoir, on s'est rasé la tête, et Eric avait fait une coiffure étrange, plus étrange que celle de Dominique, mais c'était vraiment, pour eux c'était un véritable bouleversement ils ont entendu ça parce qu'ils étaient allés chercher en Angleterre. Donc c'est une spécificité. Et le concert de Clash en 77, ils ont dit qu'ils avaient pris. Pour eux, c'était un grand moment. Ils avaient pas beaucoup de disques, mais ils étaient super fans de la musique qu'ils entendaient à cette époque-là. Donc même si parce que quand on entend parler de spécificité rouennaise, on parle tout le temps des Dogs, qui pourtant c'est pas un groupe punk, mais dont les premières musiques, les premiers disques de punk anglais ont pu influencer. Énormément. Donc ça fait partie des choses importantes. La diffusion par les disques aussi, autant que tu le disais pour Le Havre ou pour Caen. Et puis le fait aussi, ce qu'on raconte toujours, c'est que le fait que les groupes anglais, venant parfois avec des grosses dates à Paris, s'arrêtaient faire des dates au Havre ou à Rouen avant de jouer à Paris. Donc c'était quand même aussi l'accès à une musique particulière à un moment donné. Et si les Dogs à 4 se forment en juin 77, c'est pas pour rien, c'est aussi pour après avoir entendu, parce qu'il disait qu'ils étaient allés. Dominique disait qu'il était allé à des concerts qui lui avaient vraiment, qui l'avaient marqué, quoi. Clash, New York Dolls, après c'était bon, quoi. Alice Cooper aussi, parce qu'il écoutait des choses différentes, mais ça fait partie des musiques fondatrices pour une autre musique. Donc c'est des mouvements un petit peu comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir les analogies et les similitudes et les transferts qu'ont permis cette musique-là. Eric raconte aussi que s'il a eu l'idée d'enregistrer Charlie Was a Good Boy, le 45 tours, qui était pressé à 3000 exemplaires à l'époque et qui est parti tout de suite, c'était après avoir entendu, avoir reçu justement des 45 tours anglais. Donc c'est intéressant de voir que ça influe jusque dans la production et la diffusion de la musique, pas seulement dans la conception ou l'écoute.
Donc justement, il y avait un des foyers de diffusion du punk, c'est les disquaires. Donc si on prend un peu le cas normand, Mélodie Massacre bien évidemment en 74, mais il y a Le Havre avec Crazy Little Things en 73, donc qui est tenu par Philippe Garnier, qui deviendra journaliste, je crois, Libération et à Rock'n'Folk. Et à Caen, c'est Sweet Harmony. Donc, c'est un peu le même style, c'est des petits disquaires, mais qui font découvrir des musiques à des jeunes ados, 14, 15 ans, 16 ans, qui n'ont jamais entendu. Exemple, Dominique Comon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le chanteur des City Kids. Donc lui raconte qu'il va à Crazy Little Things pour aller acheter un disque de Chic Corea. Et Philippe Garnier lui dit, tiens, écoute ça, c'est vachement mieux. Et il me dit, ouais, c'était les Raum Power des Stooges. Donc forcément, la claque, et à partir de ce moment-là, boum, il est tombé dedans. Et puis il a monté le groupe, les City Kids, etc. Enfin,
vous voyez, donc les... Chic Corea quand même,
ah, je sais pas. Peut-être. Mais c'est-à-dire qu'ils sont, ils vont faire découvrir un certain nombre de... Alors, tous les styles, il n'y a pas que le punk, il y a beaucoup de garage, de 60s, il y a beaucoup de... Il y a du reggae à un moment, du ska, etc. Donc ils vont marquer un certain nombre de jeunes qui viennent écouter, qui viennent rechercher des choses aussi. Et forcément, le punk, ça va rentrer dedans quand on va faire écouter les premiers Clash, etc. Donc il y a un rôle important des disquaires. Alors ensuite, il y en aura d'autres, bien évidemment, encore aujourd'hui. Mais voilà, ça fait partie de ce... Et un autre élément qui est important, c'est aussi le rôle aussi des médias. Parce qu'il faut, même les journaux locaux vont parler du punk dès 77, quoi. Il y a des articles dans Ouest France, par exemple sur Bye Bye Turbin à Caen. Il y a des articles du Paris Normandie sur le concert des Ramones. C'est vraiment des articles de fond sur les Ramones, sur les Stranglers, etc. Donc il y a un intérêt pour la presse, à dire traditionnelle locale, pour ce mouvement. Alors après, ça va peut-être pas durer, mais bon, il y a quelques articles quand même sur ces concerts. Et généralement, c'est plutôt des articles positifs, quoi. C'est pas même s'il peut se passer des choses, c'est quand même des articles de fond qui essaient de questionner c'est quoi ce mouvement, qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes-là, pourquoi ils s'habillent comme ça, etc. Donc voilà, il y a quand même le rôle de la presse locale qui est important. Ensuite, il y aura la télé, la fameuse émission Rockin' Chair, par exemple, présentée par Jean-Loup Janer. Et 82.
Il est venu à Caen à la journée d'études de Jean-Loup Janer nous raconter.
Alors, il n'y avait pas beaucoup de groupes de punk non plus, mais il y a quand même beaucoup de groupes rock, on va dire.
Il était vraiment marqué par le groupe.
Il était
touchant qu'il soit venu. Il est venu, il nous a raconté à quel point ça comptait pour lui.
Alors Chorus, mais là beaucoup plus national, parce que Décibel, par exemple, Rockin' Chair et Décibel, c'est vraiment le côté local. Et bien évidemment qu'il y a Chorus, puisqu'on y a, je crois qu'il y a un concert des Clash qui est diffusé. Il y a Star Shooter, il y a plein de groupes. Forcément, ça participe aussi à cette diffusion auprès du grand public, même si Chorus n'était pas forcément regardé par tout le monde, mais voilà. Mais c'est-à-dire que localement aussi, Rockin' Chair, c'est peut-être la première émission locale rock, quoi. Même si on ne fait pas que du rock. Et Décibel de nuit, c'est la même chose. On va montrer des groupes de la deuxième génération punk, par exemple. Alors, pas normand. Il y a les Trotskys, il y a le Comintern-Sec, il y a tout le chaos en France, là, ce mouvement-là. Donc, c'est, voilà, quand on est ado à 15 ans et on voit ces groupes-là, bah, forcément, ça se questionne. Pourquoi, là, les crêtes, etc. Donc, les médias, je trouve, ont joué un rôle relayé. Il y a la radio, bien évidemment. Il y aura les radios libres par la suite. À Caen, bah, il y a la radio qui s'appelle aujourd'hui Radio 666, mais avant qui s'appelait Radio pour tous. C'était une radio pirate qui est devenue. Il y avait Radio UHT, il y avait à Lisieux, il y avait Radio Basilique. Enfin, vous voyez, il y a plein de. Ouais.
Voilà. Jean-Louis Janer, quand il était venu à Caen nous parler, il avait dit que ça m'avait marqué parce que je ne trouvais pas, je ne savais pas que ça avait autant été aussi important pour lui que ça. Il avait dit que pour lui, cette télé-là, il voulait. Pour lui, c'était faire de la scène, quoi. Et ça lui semblait vraiment prendre. Il se rendait compte, il pensait vraiment avoir un pouvoir très particulier sur la diffusion de la musique. Il avait dit pour lui, la télé, la radio à cette époque-là, c'était une scène qui n'était pas visible du tout et dont il avait les manettes, quoi, pour faire ce qu'il voulait. Et il disait qu'il faisait par rapport, parce qu'il continue de faire des trucs, ce mec-là. Et il disait, à cette époque-là, j'étais d'une liberté, j'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai filmé qui j'ai voulu, absolument en grande liberté. Et il avait l'impression de participer à une scène punk en filmant et en faisant ses émissions. Et il faut se rappeler qu'en 80, jusqu'en 84, où il faisait jusqu'à la naissance de Canal+, il n'y avait que 3 chaînes, quoi, pour diffuser tout ça. Il y a ça aussi qui est un périmètre très différent. Ça fait un paysage médiatique complètement différent. Il y avait pas de. Aujourd'hui, on oublie tout ça très vite avec Internet, avec les milliards de chaînes. Tu veux montrer des trucs
après. Vas-y. Non, mais c'était juste pour avant de parler de la violence, comment elle s'exprimait, pour voilà essayer de montrer que en gros le punk c'est pas que Paris, quoi. Hein. Donc et généralement. Si on parle de violence, il y avait plutôt une violence alors un peu symbolique entre les punks rouennais ou les punks cannais et les punks parisiens. Les punks havrais. Alors, les punks havrais détestaient les punks parisiens parce que pour eux, c'était des poseurs. Voilà, c'était des mecs qui se la racontaient, qui venaient avec, on va dire, le costume punk, etc. Alors qu'eux, c'était des fils de prolo et ils s'habillaient comme ils pouvaient. Il n'y avait pas forcément de look, mais eux, c'était le message, c'était l'énergie, etc. Donc, il y avait un peu des espèces de violence. Exemple, Asphalt Jungle. Asphalt Jungle, le groupe de Patrick Edine, il vient jouer au Havre en 77, je crois, je sais plus quel mois. Et Patrick Edine raconte, il paraît que le Havre c'est le Détroit français, machin. Il commence à chauffer le public, ils font 3 morceaux, ils se prennent des canettes sur la gueule, ils partent, quoi. Donc voilà, les dockers havrais n'ont pas aimé qu'on vienne les chatouiller un peu sur le ou les chambrer. Donc voilà, ça se passe comme ça avec d'autres groupes aussi, hein. C'est pas que le punk, hein. Mais donc ça veut dire qu'il y a aussi voilà des antagonismes un peu même les Rouennais, par exemple Gilles Tanguy, voilà, quand dans les interviews, pour lui le punk parisien ça le faisait doucement rigoler, quoi. C'était c'était du show business, quoi. Alors voilà, donc il y avait un peu cette ces conflits un peu, ce qui fait, et on comprend pourquoi après les groupes normands sont pas allés forcément jouer à Paris, parce qu'ils avaient pas forcément envie d'y aller, pour aller voir dans le public ces poseurs parisiens, etc. Et généralement quand ça se passait mal, ça se finissait en baston général, voilà. Donc voilà, et il y avait même le conflit entre Rouen et Le Havre, donc vous voyez, ça va jusque là. Donc les groupes rouennais n'étaient pas les bienvenus forcément au Havre, sauf les Dogs. Et inversement. Donc il y avait un peu, voilà, il y avait, en gros, c'est l'image de Le Havre, la prolétaire, l'ouvrière, et puis Rouen, un peu la bourgeoise, quoi. Donc forcément, on n'était pas sur les mêmes longueurs d'onde. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça peut un peu frictionner entre les groupes.
Comment ? On n'accueillait pas les Hébreux, en fait ? On connaît pas. Ah oui, d'accord. On a eu tout à l'heure une intervention de quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait 3 punks à Hébreux. Donc, on ne se prononce pas sur les choses qu'on ne connaît pas.
Mais Christophe, c'est qu'Evreux que je n'ai pas encore analysé.
On n'a pas de fidèles relayeurs à Evreux.
Ouais, non, mais oui, au contraire.
Si vous connaissez des gens qui peuvent nous raconter quelque chose de fiable à Evreux, on est content.
Ouais, oui, à part le rock dans tous ses états.
Les Evreux, ici, ne sont pas bavards.
À Evreux, avant le punk, il se passait plein de
Ben oui, oui, bien sûr, mais non, mais on n'a pas du tout.
Ouais,
attends, ça, on n'a aucune prétention exhaustive de quoi que ce soit. C'est juste que là, on raconte des conneries qu'on connaît là, nous, mais après, voilà. Non, non, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait toujours parler de. Ben bien sûr, beaucoup plus rock. Beaucoup plus rock, bien sûr, et en plus, même au niveau des salles, au niveau de la programmation et tout ça.
Toi, regarde, voilà.
Là, c'est pas
rock and roll.
Mais tu sais, pour finir un truc, c'est que ces histoires de différence entre les villes, elles existent. Moi, ça m'a fait marrer. On est à la journée de Caen, à la journée d'études à Caen, on a rencontré donc des groupes anciens et des groupes récents, des groupes punk cannais, qui jouent en ce moment. Et donc, je leur ai demandé, vous allez des fois jouer à Rouen. Ils m'ont dit qu'ils vous connaissaient un petit peu, ils connaissaient un peu les mecs du trois pièces, enfin les gens du trois pièces et tout ça. Et ils m'ont dit, mais à Rouen, on n'y va pas, nous, on va au Havre. On ne va pas à Rouen. Je dis, pourquoi vous n'allez pas à Rouen? Et ils m'ont dit, parce que vous ne savez pas teaser. Il m'a dit, les gens, ils disaient ça. Ils disaient, vous ne savez pas teaser. Et nous, on ne savait pas picoler. Ils nous disaient ça. Ils ont dit, nous, on va au Havre, parce qu'au Havre, c'est bien. Et à Rouen, on n'y va pas. Et tous les mecs, ils disaient ça.
On voit qu'il est lié.
Et c'était super rigolo, parce qu'ils disaient, on ne va pas à Rouen, on n'aime pas aller à Rouen. Ils vont au Havre. Et donc, la ligne, elle se fait.
Les bars à Rouen sont tenus par les commerçants, par les fils de commerçants. En majorité. Et ça joue beaucoup.
Et les mecs de Caen, ils m'ont dit, non, Rouen, on n'y va pas. Et la scène rouennaise ne les intéressait pas. J'ai dit, mais il y a bien des endroits, il y a bien des... Parce que moi, je ne connaissais pas, ça m'intéressait de savoir qui joue aujourd'hui à Rouen. J'en sais plus rien, moi. Donc, ça m'intéressait de savoir qui joue à Rouen. Ils m'ont dit, non, non, mais nous, on ne va pas à Rouen. Donc, entre Caen, Le Havre et Rouen, ça continue. Donc Évreux, je ne sais pas, j'en sais rien. Quoi.
Ouais.
C'est intéressant de voir comment... c'est historique, ce truc. Enfin, il y a des choses... qui dépasse la musique, et c'est dans ce sens-là.
Ouais.
Comment ?
Ah oui, oui.
Non, non, mais ça, c'était une histoire, comme dit Thibaut, c'est un truc beaucoup plus ancien, c'est les années 70, avec une culture, avec des intentions politiques et des programmes,
Pour revenir sur ce que tu disais, tu as raison, sur le fait que Évreux, avec la base de l'US Air Force, a été un lieu où s'est développé tout le rock'n'roll et qui s'est. Il faisait venir des groupes. Alors des groupes français, mais des groupes anglais aussi qui jouaient dans la base, et on retrouvait la même chose au Havre, puisque au Havre c'était où arrivaient justement les GI américains, et forcément à un moment donné ils transitaient au Havre, et au Havre il y a eu beaucoup de groupes de rock'n'roll, voilà, des années 50-60, et ça frictionnait aussi avec les Dockers et les Américains, etc. Mais Évreux, voilà, a cette particularité comme Châteauroux, où à chaque fois où il y a des bases, et ce qui fait qu'aussi il y a en gros un capital rock en Normandie. Ça, c'est important, plus peut-être que dans d'autres régions, et qui a participé aussi au fait à l'émergence d'autres styles de musique. Le punk, ou le pop rock, Little Bob, ou enfin, d'autres styles. Tout ça, ça a permis cette arrivée du punk, les magasins, etc. Donc, pour en venir sur la violence, pour vous dire qu'il n'y a pas que le punk, voilà, j'ai pris l'article là, qui était intéressant, c'est le concert de Bill Haley au Havre en 58, et ça se finit en émeute dans la salle, les jeunes sont arrêtés, ils arrachent les fauteuils, etc. Voilà, donc pour vous dire que le punk n'a rien inventé dans la violence. Hein. Mais voilà, et même chose, en 1970, il y a le concert des Variations, je crois, au Havre, et il y a un flic qui a un œil crevé, il y a une bagarre générale, au bout de 30 minutes, le concert il est arrêté, etc. Donc vous voyez que cette question de la violence, souvent on l'associe au punk, forcément, on ne sait pas pourquoi. Mais cette tradition musicale, voilà, violente, elle peut naître à un moment donné, en 61, Johnny Hallyday à l'Olympia, enfin les choses comme ça. Voilà, il y a cette forme de violence qui est déjà présente, les blousons noirs, etc. Hein, voilà, tout ça, ça fait partie de cette tradition. Hein. Donc la question de la violence. Moi, enfin, on voit plusieurs sortes de violences dans le punk. Hein.
Mais dans toute forme de contestation.
Toute forme de musique, voilà. Donc forcément, à la base, voilà, en tant que musique contestataire, subversive, provocatrice, etc. Forcément, donc il y a cette question de la résistance à l'ordre établi, à la culture dominante. Donc cette violence, elle s'exprime d'abord par la musique. Quoi. C'est le point de départ. Ça veut dire que on ne sait pas jouer, mais on va jouer quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes punk, ils ne savent pas jouer au départ. Alors, ils savent jouer un petit peu. Il y en a un qui a fait un peu de guitare ou un peu de violon et il se met à la guitare. Mais voilà, cette violence-là, c'est de dire, voilà, nous, on ne va pas faire d'études de musique, on ne va pas aller dans un conservatoire, on va trouver du matériel comme on peut, et on va se lancer. Voilà, donc ça, c'est voilà, une forme de dire, voilà, allez vous faire foutre, quoi. On ne sait pas jouer, mais on revendique le fait peut-être de ne pas savoir très bien jouer. Cette forme de violence musicale aussi, elle peut se traduire par le son, forcément, parce qu'on va jouer à fond, on va jouer vite, on va jouer avec l'énergie, avec la rage. Forcément, ça, dans cette ambiance musicale où le rock progressif, c'est plutôt faire des solos de 30 minutes et se regarder jouer, etc. Et les mecs sont assis, etc. Ou le folk, etc. On joue de la guitare acoustique. Et à un moment donné, on va brancher les amplis, on va se mettre à fond et on va envoyer la sauce. Forcément, il y a une certaine violence par rapport à cette musique qui est là depuis les années 70. Donc, et le public reçoit ça aussi comme une forme de violence, hein, parce que quand vous êtes dans la salle et que vous prenez le son dans la tronche, bah évidemment que ça vous agresse, quoi. Donc il y a toute cette forme de violence musicale, elle est aussi dans les paroles, etc., dans les textes, dans la façon de chanter. Quand vous regardez voilà, les premiers groupes, bah, ça hurle, ça crie. Regardez Johnny Rotten, comment il chante, quoi. Il est plié en deux, il articule, voilà, il a toute une mimique quand il chante faux, on s'en fout. Vous voyez, il y a voilà cette, on envoie un peu, baldinguer un peu toute la tradition musicale, savoir jouer, machin, et hop, on dégage tout ça en disant, bah allez, nous on arrive, notre credo c'est l'énergie, la rage, voilà, on sait pas jouer, on s'en fout, on vous emmerde, quoi. C'est un peu voilà, c'est un peu ça l'idée de départ dans cette violence musicale, quoi.
Il y a aussi un truc dans tout ce que tu dis aussi, c'est il y a une chose importante aussi. Moi, je reviens toujours à des trucs historiques, mais en fait, en 77, l'été 76, c'était l'été des hippies, Summer of Love, avec toute la. Et l'été 77, c'est un été avec des violences sociales partout en Europe. Il y a eu beaucoup de grèves il y a eu des manifs anti-nucléaires, il y a eu les grèves et les premières manifs en Irlande, il y a eu beaucoup de violences un peu partout, et des violences qui tournent mal parfois, avec les premières violences policières et ce qui gêne en fait dans les premiers festivals punk et les premiers concerts qui ont fait un petit peu de bruit. Ce qui gêne, c'est que jusque-là, il y avait des mouvements qui étaient accompagnés de revendications, et si les hippies, par exemple, ils s'opposaient à la guerre du Vietnam, avec des mouvements comme ça, avec des accomplissements et des objectifs sociaux ou politiques, ce qui gêne et ce qui fait violence en fait, et si la construction de ce terme de violence, elle s'est appliquée directement à la musique punk dès 77, c'est qu'en fait, quand les premiers groupes punk, ils s'opposent à rien de précis puisqu'ils caricaturent tout et qu'ils tournent tout en dérision, et que le fait de tout envoyer chier, c'est un credo en soi. Donc sans apporter de solution, surtout pas de solution, et que si la construction, enfin, ce qu'on essaye de montrer, enfin pas de montrer, mais en tout cas d'expliquer, ou si on peut apporter un éclairage là-dessus, c'est que si on parle de violence, donc dans un colloque universitaire, ils essayent d'analyser les choses. Nous, ce qu'on essaye de voir, c'est que c'est une construction médiatique et politique, puisque le regard c'est un point de vue des médias, parce que le réactivisme qui est caricatural, caractéristique en tout cas de la musique punk dès le début. Ce qui fait problème, c'est que c'est ambigu, que c'est à la fois antipolitique, mais ça propose aucune valeur positive, ça n'apporte pas de solution. Jusqu'alors, jusque dans les années 70, les mouvements de contre-culture souhaitent apporter des solutions. Les hippies avaient des solutions à tout, avec des propositions écologistes, anti-guerre, etc., avec des propositions sociales qui étaient... Et la spécificité qui arrive à partir de 77, c'est qu'on envoie tout chier sans proposer de solution du tout. Et c'est ça qui est reçu comme une violence extrême, puisqu'on envoie tout péter pour rien proposer. Ça offre un vide sidéral qui, et politiquement et socialement, pose problème. Et c'est là que la violence, à mon sens... enfin, j'ai pas assez ça.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça reprend carrément la position de celui qui veut faire de la musique.
Oui,
dans
c'est
ça. Dans les années 60, il veut faire le problème, c'est de la musique pour aussi parler à l'usine. Mmh. Et bye bye, Mick Turpin, c'est j'ai même pas d'avenir dans la musique, quoi. Mmh. C'est-à-dire que je refuse l'usine, et en plus, la musique que je fais, elle n'est pas commerciale, et j'ai pas d'avenir non plus dans la musique. Mmh. Donc c'est une espèce de double, un refus,
ouais.
C'est une espèce de fuite en avant.
D'un ordre social, d'un ordre établi du travail, de la musique, de tout ce qui existe. Ouais. Et c'est ça en fait, ce qui choque le plus, c'est la dérision avec laquelle la plupart des paroles, et des postures, et des disques, et de tout ce qui est produit, par ce qu'on a appelé les groupes punk dès 77, qui manie en fait avec aisance tous les outils de la provocation, de la subversion et de tout ce qui peut faire chier, des sorties sulfureuses des uns ou des autres qui parfois n'ont pas de sens. On voulait parler aussi avec, on pourrait parler pendant des heures, mais avec Christophe, on a eu aussi dans cette journée esthétique une discussion sur l'apparence et l'utilisation soit des insignes nazis, des insignes et de tout ce qui peut provoquer dans cette provocation-là, dans le choix des noms des groupes, dans le choix de s'appeler tous les, on peut faire des listes si on sort des listes de noms de groupes punk, l'utilisation et les références à la Shoah, à tous les génocides en général, à tout ce qui peut être absolument sulfureux et problématique et absolument anti-politiquement correct, fait provocation et fait chier dans ce sens-là. Donc la violence, elle est juste dans la violence perçue et symbolique et évidemment politique, elle est perçue dans ce sens-là. Parce que faire du bruit, pour revenir à ce que tu disais, ça demande ni talent, ni argent. Et c'est bien ça qui pose les jalons d'un succès qui dure 40 ans après. C'est facile de...
Sur ce que tu dis, sur le fait qu'il n'y a pas d'avenir dans la musique, je ne suis pas si sûr. Parce que quand tu regardes un peu sur les premiers groupes... Hein, il y en a quand même qui vont signer chez des plus grosses majeures, qui vont aller chercher de la médiatisation pour Bye Bye Turbin en participant au tremplin du Golfe de Rouault, en allant démarcher chez Polydor et tout ça. Non. Alors, je ne sais pas s'ils veulent vite de ça, mais il y a quand même une envie peut-être de sortir au moins un 45 tours, etc. C'est pas le fait de dire on va jouer pour juste pour jouer, mais alors, il bossait à côté, hein. Donc, il y a quand même certaines recherches pour. Alors, c'est peut-être une spécificité de ce groupe-là, qui était très politisé, très militant, très syndicalisé, etc. Mais eux, ils cherchent quand même à un moment donné à sortir de leur musique, quoi. Donc, à un moment donné, c'est peut-être aussi d'aller chez le Grand Capital. Mais bon, tu vois, alors peut-être qu'il y a d'autres groupes qui c'est un peu différent. Mais pour revenir à ce que tu disais, les paroles des chansons, ça reflète un peu tout ça, quoi. Et les Olivenstein, quoi. Bon, Pétain d'Arlan, c'était le bon temps. Bon, voilà, c'est. Même si c'est très second degré, mais. Il y a toujours derrière une volonté de provoquer, il le dit, enfin Eric il le dit lui-même, quoi. C'était histoire de dire vous nous critiquez, mais regardez ce que vous avez fait quand vous étiez dans les années 40.
Ça,
donc
il y a cette violence, elle vient de.
Cette violence-là, elle est dans les mots aussi, quoi, d'utiliser.
Oui, pour amener en fait à penser, amener les gens à penser plus qu'à soumettre. Parce qu'on est dans des mouvements, tous les mouvements de contre-culture jusque-là, apporter des solutions ou des pistes salvatrices. Et c'est le premier mouvement qui pète tout sans rien proposer.
Et puis c'est le retour du refoulé aussi.
Le retour du refoulé.
La France collaboration.
De chasser la frustration.
Ces gars-là, ils arrivent après.
Exactement, ouais. Et dans un truc de.
Papa, maman, t'as fait quoi pendant la guerre?
Et de fatigue aussi. Et attends, et puis on est. C'est Giscard et tout ça. Donc il y a une espèce de lourd.
Et puis c'est le fait aussi de chanter en français. Qui est quand même un choix délibéré de faire passer un message. Sauf, Turbin chante en anglais, par exemple, au départ. Mais histoire de se faire comprendre aussi par ceux qui nous écoutent, quoi. Pas de faire du franglais, etc. Avec des mots qu'on va comprendre, et des mots chocs aussi.
On a un collègue qui s'appelle Thomas Loué, qui est un historien aussi, qui est prof à Saint-Quentin en Yvelines, et qui bosse, lui, sur OTH, et qui a une méthode assez particulière, qui a fait un super boulot, qui nous a présenté un jour. Il a rentré, il a fait une base de données avec toutes les paroles d'OTH, donc je ne sais pas combien il y a de chansons, il a un répertoire, je crois qu'il a 107 ou 120 textes. Et il a travaillé sur les occurrences des mots, l'utilisation, sur tout le vocabulaire utilisé par OTH et sur les... Donc on voit comment on fabrique ou pas... de la provocation, de l'ambiguïté, de la subversion, les choses, comment on peut amener de la subversion dans ses paroles. Et c'est super chouette de pouvoir regarder toute l'évolution, parce qu'en fait, il l'a fait sur 20 ans d'OTH. Et donc, on voit l'évolution comme ça des paroles. Et ça, ça fait partie des boulots un peu longs qu'on pourrait faire et qui sont intéressants, parce que sinon c'est assez facile, si on relève, pas spécialement pour Rouen, mais si on peut le faire avec toutes les paroles des chansons, de crève salope à il tue à son petit frère et tout le merdier, on peut trouver des tonnes de choses qui sont évidemment ouvertement violentes et pourtant c'est pas ça, c'est pas l'enjeu. Donc ce serait pour revenir, Étienne, à ce que tu disais dès le début, c'est que évidemment qu'on peut trouver sous toute forme de musique intitulé un colloque ou travailler sur rock et violence ou punk et violence. En soi, ça veut rien dire. Enfin, nous, ça nous intéresse pas. En soi, c'est pas la question d'étiqueter un truc violence, mais c'est plutôt de l'interroger et de voir qui l'a construit cette violence et pourquoi faire et dans quelle dimension. C'est juste une... Donc tu voulais parler de ça, des violences suggérées, des violences subies, parce qu'on peut parler aussi, on peut aussi considérer à partir du point de vue que les punks sont a priori d'abord plus souvent victimes qu'agresseurs, parce que qui se fait péter la gueule par les rocks, par les teds dès le début, voilà, qui... Donc il y a cette question-là, c'est une question de point de vue et puis de voir
Cette violence, les violences
suggérées. On a travaillé avec un collègue et copain qui dirige le service de médecine légale à l'hôpital de Bondy. Et donc la médecine légale, c'est le service de médecine légale, c'est de la médecine légale du vivant, c'est-à-dire qu'il accueille des gens qui sont blessés ou qui sont ramassés par la police ou qui sont en garde à vue. Et donc il a travaillé particulièrement sur les victimes de concerts. Et c'est pas du tout les concerts punk qui ramènent le plus de mecs blessés. Blessés physiquement, après peut-être qu'ils sont blessés symboliquement, mais ça se mesure pas dans les critères de... Donc il y a toutes ces histoires-là de violences suggérées.
Il y a le côté esthétique aussi, voilà, dans cette violence. Qu'est-ce qu'on porte tous les jours, comment on veut se montrer, etc. Donc là, c'est Bye Bye Turbin, voilà. Donc eux, ils sont très... très clash, hein, avec les combinaisons, etc., avec les blousons zippés, avec des chemises avec marqué subversion, etc., enfin avec des slogans autour. Donc voilà, c'est aussi un rejet des normes, on va dire, vestimentaires et sociales en s'habillant comme ça. Et bien évidemment, quand on se balade comme ça en 78 dans les rues de Caen, ah, forcément, ça fait réagir, quoi. Claude Levieux qui met un brassard avec une croix gammée et puis il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc il l'enlève.
C'était super drôle. Et Claude Levieux, en 77, à Pont-Audemer, ouais. Il descend, il met une croix gammée, ça arrive, il descend dans la rue et tout le monde s'en fout. Je trouve ça génial. Ça fait chier personne qui met une croix gammée.
Donc il y a tout ce côté un peu vestimentaire qui fait que, voilà. On renvoie aussi une image aux yeux des gens, leur montrant qui on est, etc. On peut s'afficher, on peut mettre tout ce qu'on veut dessus, hein, soit des brassards qui rappellent quand même les brassards, soit nazis, soit les chemises brunes en Italie, etc. Donc il y a une connotation quand même un peu provocatrice quand même. Donc après les looks, ils évoluent, mais pour ce groupe-là, on parlait tout à l'heure de, ils proposent rien, mais eux, ils proposent un peu parce qu'ils sont très engagés justement dans le militantisme et ils vont ils font des manifs, ils soutiennent les ouvriers de Moulinex par exemple quand ils font grève, ils font des concerts de soutien. Ils font, bien évidemment, ils pratiquent le do it yourself, donc ils vont même organiser un concert à Caen en 78 qui regroupe que les quatre groupes punk de Caen, donc gratuit aussi. Donc ouais, ils sont un peu dans ce côté, ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein. Donc c'est de faire des choses eux-mêmes, par eux-mêmes, donc ils vont autoproduire leurs 45 tours. Ils vont créer leurs propres affiches, leurs propres fanzines déjà, donc leurs propres concerts. Alors les concerts, ça se passe pas très bien, mais voilà. Donc ils sont, c'est peut-être les seuls, j'en sais rien, mais ils tentent de proposer quelque chose dans le camp des années 70 où il se passe rien, où il n'y a pas de lieu, etc. Donc c'est peut-être un exemple de proposition ou de militantisme au quotidien, hein, parce que eux sont vraiment engagés. Vladimir Marcus, donc le chanteur là, lui il est il sera chanteur des Brigades après, le groupe parisien, et il est toujours syndicaliste à Sud, Donc il milite toujours, il organise des... Voilà, il est toujours investi et depuis le début, voilà. Donc voilà, en termes de trajectoire, un peu, voilà, on peut voir un petit peu... tout à l'heure, on parlait les architectes, machin, sociale, mais voilà. Ouais. Donc il y a aussi des gens qui restent vraiment dans cette mouvance-là et d'organiser des concerts, etc. Donc voilà. Donc autre... je voulais voir aussi sur les... sur cette violence, on parlait tout à l'heure, le corps punk, etc. Ben, y a la violence aussi qu'on s'inflige. Donc, y a tout le côté prise de drogue, alcool, etc. Donc,
c'est considéré comme ça relève de...
Ça joue aussi sur les vulnérabilités, sur la santé, donc sur beaucoup qui sont restés quand même. Donc il y a tout ce côté-là aussi, pousser son corps à l'extrême, hein, donc via des produits, etc. Alors tous ne sont pas tombés non plus dans l'héroïne et la cocaïne. Hein. Eux, c'est plutôt amphétamine, par exemple, ou cannabis. Ça, ou... Ah oui, non, mais là, alors, eux, c'était plutôt...
Il y a aussi une géographie à faire, voilà, parce qu'il y a une cartographie de la drogue en France, parce qu'on s'aperçoit... Ouais. On s'aperçoit avec étonnement, hein, à chaque journée d'études, que les groupes en France ne prennent pas les mêmes choses. Et ça, moi, ça m'intéresse. Parce que on travaillait justement avec Patrick Chariot, qui est aussi addictologue et psychiatre, et qui travaille à l'hôpital, dans un service d'addictologie et toxicologie. Et on s'aperçoit en France que les violences infligées au corps, au sens prise de drogue et autres... autre produit, on s'aperçoit que la géographie de cette violence infligée au corps, elle n'est pas la même partout. Alors, on ne prend pas les mêmes drogues selon les régions.
Et selon les générations.
Les générations, selon les milieux, c'est vachement intéressant voir ce qu'on se fout dans la gueule pour arriver à finalement un même résultat proche de l'épave humaine, sans citer SID. Il y a une géographie tout à fait particulière et qui est intéressante. Et c'est souvent une question de... Alors, ce dont on s'est aperçu, ça dépend aussi du réseau social, de tout ça. Par exemple, à Caen, ils prennent pas trop de poudre. Pas tellement. Ils picolent beaucoup plus. À Toulouse, ils prennent beaucoup. Il y a des histoires d'accessibilité, mais il y a des choses historiques aussi et culturelles. Il y a des choses qui se passent qui sont... Il y a des régions où on prend plus de cachetons que de qu'on fume, où il y a des régions et pourtant le résultat est le même. Il y a toujours des groupes, il y a toujours de la musique, mais c'est intéressant de voir que ces violences-là, elles sont infligées de toute façon. De toute façon, il y a des prises de drogue ou de quoi que ce d'alcool évidemment parce qu'on est en France, mais qu'après partout c'est légal et que tout ce qui relève de la drogue dure, c'est très différent d'une ville à l'autre. En fonction des populations, mais ça reste évidemment.
Au Havre, on est plus culture du docker, donc plus alcool, quoi. Donc, après, il peut y avoir des trafics avec les bateaux, mais après, c'est marrant, c'est que
la. On est connu pour ça, dans toute la France, dès que je dis on travaille à Rouen, c'est de la poudre et c'est tout, quoi. Enfin, à Rouen, on est étiqueté.
C'est connu, de ganja par rapport à toute la France.
Et d'héroïne, manteau de mer,
la ganja
est dans Rouen est connu comme étant
Seine-Maritime,
plus grande consommatrice d'héroïne en France.
Oui, mais aussi grande consommatrice de ganja.
D'accord, quand même. Manteau de mer, c'est la plateforme, mais ça vient jusqu'à nous.
C'est connu dans les grands fichiers.
Mais à Caen, ils nous disent, à Caen, il y a plein de villes où on a rencontré plein de groupes. On a rencontré maintenant des groupes de partout. Et des groupes du sud, des groupes jusqu'à des groupes dans les...
Même les punks, ils aiment bien la
pluie. À Biarritz, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, partout. Les punks, ils aiment bien la pluie.
Ouais.
Et voilà.
C'est vrai.
Merci. Donc Christophe, tu nous
donc oui alors juste parce qu'il faut conclure aussi un moment. Je voulais finir plus celle qui est connue pour le mouvement punk, ça va être plutôt la violence physique, on va dire. Donc pour montrer aussi que bon là c'est un groupe havrais, c'est Teenage Riot, c'est un des premiers groupes punk au Havre. Vous connaissez peut-être, c'est François Lebas qui joue aujourd'hui, qui a joué dans Fixed Up, qui a joué dans Black Sly qui joue aujourd'hui dans Asphalt Touareg. Voilà, donc pour montrer aussi que la violence, elle s'exerce aussi sur scène par le jeu de guitare, par le fait de sauter. Voilà, ça c'est Bye Bye Turbin. Voilà, on peut avoir une image de ce qui se passe sur scène. Il y a déjà les mecs qui montent sur la scène, qui sautent dans le public. Là, on est en 78. Hein. Donc la violence, elle se passe sur la scène parce qu'il y a le groupe qui joue, qui envoie du son et on en prend plein la tête. Il y a la violence dans la salle, et cette violence-là, donc il y a le pogo, bien évidemment, il y a les mecs qui montent sur scène, mais après, si on prend Caen, va y avoir la violence dans et en dehors de la salle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir le phénomène des bandes. C'est-à-dire qu'à Caen, pour prendre l'exemple Canet, donc il y a Bye Bye Turbin qui draine un public, voilà, de 20-25 quepons. Il y a les Alligators, donc le groupe de rockabilly, lui qui draine aussi une vingtaine de rockab. Entre les musiciens, ça se passe très bien. Mais sauf qu'il joue, Bye Bye Turbin, il joue beaucoup avec les Alligators, parce que c'est les deux groupes phares. Hein. Et forcément, le public, bah, il s'aime pas. Et donc, à chaque fois, ça finit en bagarre générale. Le guitariste me racontait un concert que Bye Bye Turbin joue à Caen. Il y a les rockabs qui sont là, qui boivent des bières, et une fois que la bière est finie, ils leur balancent sur la gueule pendant le concert. Voilà. Donc ça finit en bagarre générale. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce phénomène des banques. Et je voulais voir, j'avais juste un message. Voilà, ça c'est un fanzine des Alligators. Vous voyez, le mec il dit voilà, si on cassait du punk, bah faudrait en trouver un. Voilà, donc ça c'est un fanzine des Alligators. Voilà, il y a déjà cette représentation des confrontations. Entre, alors, il y a les rockabilly, les punks, ensuite il y aura le mouvement skin aussi qui va arriver, et là il y aura des bagarres mémorables à Caen, parce que à Caen, je vous ai dit qu'il y a la MJC d'Hérouville qui organise beaucoup de concerts, et il va y avoir beaucoup de concerts dans la deuxième vague punk, ça va être tout le mouvement KO en France, c'est-à-dire Comité Ernsec, Trotskids, etc. Et ça draine un public. Ça, qui s'apprécie pas trop, il y a des grosses bagarres.
Ça joue, comme tu dis, au niveau générationnel. Parce que tu sais, au niveau rockabilly, c'est plusieurs rock compagnies,
ouais.
Les petits jeunes. Mmh.
C'est ça, parce que là, c'est.
Mais des fois, c'est l'inverse. À Strasbourg, c'est les skins qui précèdent les punks.
Ah oui, après, dans le. Dans
ça dépend, là aussi, la géographie, elle est intéressante.
Le skin arrive comment par... En fait, les jeunes, comme on sait, plus ou moins, c'est les jeunes londoniens, au moins jamaïcains, qui sont à la tête et compagnie. Mais il arrive directement politisé, je veux dire, à l'extrême droite.
Oui.
Non, là, il y a les deux. Après, à un moment donné, je connais pas, c'est le mouvement.
Mais ce qui n'est de. Ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. Et skinhead des années 60,
non.
C'est le label Laura Litken, skinhead reggae,
oui,
sur le prochain label, skinhead reggae, c'est Rastafari,
ouais.
J'écoute du rocksteady, du ska, et ça n'a rien à voir avec l'extrême. C'est juste en 77 qu'il y a eu la résurgence de l'extrême droite, et c'est aussi...
Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais.
Oui, il y a le National Front qui va recruter.
C'est exactement ce qu'on dit.
De prendre le mouvement punk, les amener à leur connerie. Et puis voilà.
Mais sinon, tu sais, c'est avec les violences en Irlande aussi. Avec le National Front.
Après, comment ça arrive.
Tout à côté prolétarien.
Oui, c'est ça.
Il y a des plans punk, vos trucs de branleur artiste, on en a rien à foutre.
Ouais.
On fait trois accords à la Ramones, et il y avait même à Rouen, t'avais la rive gauche et la rive droite, c'était pas la même.
Ah, ça, je sais. Ouais.
C'est ça qui est bien.
Le prolétaire avec trois accords, et si t'avais pas, t'avais toujours fait un cours à la Lox, mais c'était pas la même école. Et ça, tu le retrouves en Angleterre.
Je retrouve ça à chaque fois.
Comment ça s'appelle toute la touche, l'Oil et tout ça, qui sont pas forcément ce qu'ils fâchent.
Ah non, non, non.
C'est des mecs qui sont prolétariens, ils ont à Londres, c'est bon, là, le punk bourgeois, nous, on a. Enfin, on est à l'usine et machin,
et
c'est beaucoup plus.
Guns of Brixton, après, hein. Ça rejoint le truc de c'est Joe Strummer, après, il le raconte très bien.
Et puis, le festival Rage Against Racism.
Racism, avec le truc, avec le concert de Clash.
Après, voilà, il y a des bandes aussi, parce qu'il y a aussi les bandes qui commencent à se créer en banlieue aussi. Hein. Donc, il y a aussi des notions de territoire, etc., qui fait que voilà, ça se mélange.
Non, mais pas forcément.
C'est plus puis en Kabylie, au bar des grands qui est. Qui n'est pas
Enfin bon, il y a de la violence à la sortie des concerts, hein, en tout cas. Et puis quand on écoute un peu ce qui se passait sur Paris, le mec il raconte que il frôlait les murs quoi, quand t'étais punk. Quoi. Que t'avais des skins des halles et compagnie. Et le mec il flippait quand même, hein, parce que les mecs ils étaient fous. Hein.
C'est rigolo.
Et notre copain qui raconte, là on a ce copain médecin qui travaille donc en garde à vue depuis. Il a 30 ans de garde à vue en tant que médecin, donc c'est intéressant parce qu'il voit. Dans Paris, il récupère des gens, notamment des sorties de concerts et tout ça. Il dit que c'est lui ce qu'il nous avait expliqué, c'était super intéressant, c'est qu'on pensait qu'il allait nous parler de la violence en tant que ben justement le pogo, les machins. On s'attendait. Et en fait, il nous explique que toutes les victimes de violence, c'était toujours. Parce qu'il faut, dans des comptes rendus de médecins, il y a des cases. Si vous êtes allé en garde à vue, vous savez comment ça se passe. On fait des regards, hommes, machin, et il y a des catégorisations. Donc ils mettent et punk existe comme catégorie. Donc c'est génial de voir, et ça existe dans les catégories des fiches de garde à vue. Il expliquait qu'il avait des victimes, mais jamais de. Il avait énormément que des victimes et jamais d'agresseurs. Et c'était super intéressant de voir il avait travaillé dans les archives des CRS. Si on essaye de travailler dans les archives municipales, les occurrences du mot punk, elles sortent en victime et jamais en. Alors que d'un point de vue médiatique ou social, on a l'impression les gens, ça fait peur parce que ça, c'est toujours les méchants. Alors que en fait, jamais. C'est super intéressant de voir comment est-ce que les réalités sociales avec des études peuvent contrecarrer des idées reçues. C'est marrant. Ça, c'est des choses intéressantes sur les violences suggérées ou les violences construites et comment est-ce que tout ça n'est qu'un écho de construction, de socialisation, en fait.
Et puis, ouais, faut conclure.
C'est pour ça qu'ils ont quand même...
Pour la journée de Rouen, il faut...
Est-ce que tu disais tout à l'heure, malgré tout, ils ont quand même proposé quelque chose... Un combat de liberté, c'est...
Oui, bien sûr. Non, mais c'est
le truc que je disais dans une... Ça nous plaît pas. Nous, on veut autre chose et on fout le bordel et puis on vous emmerde.
Oui, mais
c'est quand même une proposition de liberté.
C'est une proposition, mais c'est ça qui faisait peur. Cette énergie-là, elle est moins force de proposition que ce qui avait été fait par les mouvements gauchistes. C'est pour ça que je le disais. Destroy, ça n'a rien de constructif en soi.
Ni nos futurs.
Mais destroyer.
Non, mais tu vois, c'était juste ça dans le dire, message, dans la verbalisation.
Ça peut aussi dire détruire un ordre établi.
Mmh. Oui, tout à fait, mais c'est ça qu'on dit la même chose. Hein.
C'est pas détruire pour détruire, c'est détruire une seule façon du capitalisme,
oui, bien sûr.
Ouais. C'est détruire ça. Fasciste, régime, voilà. Mmh.
Donc en fait,
pour conclure,
on voulait avec Christophe vous présenter ce soir le programme de recherche qui nous occupe pas mal, ma foi, et vous inviter donc à réfléchir à ce qu'on pourrait faire d'intéressant pour que notre bonne ville de Rouen figure au patrimoine punk mondial à travers l'histoire et la patrimonialisation des archives qu'on pourrait appel aux archives ouvertes. Si vous avez des photos, des flyers, des setlists, des affiches, des musiques, des vidéos, venez nous voir. On vous accueillera les bras ouverts. Et puis, il faut quand même dire aussi que Christophe va bientôt monter sur scène à Rouen.
Si on veut bien de moi.
La promotion de son magnifique groupe.
Peut-être trop violent. J'ai découvert,
qui s'appelle Bruce Lee Football Club. Je le dis bien, hein, c'est quand même ça. Et que j'ai découvert en lisant le hors-série de Rock and Folk sur Clash de ce mois-ci, que la figure de référence de Joe Strummer, c'est Bruce Lee.
Comme quoi,
et là, tout se tient. Donc j'ai trouvé que c'était quand même une forme, une référence ultime en matière de violence et en matière de rock and roll. C'est pas mal, non ?
Mandarin.
Donc...
Bah, en tout cas, merci de nous avoir écoutés.
Au printemps prochain, donc on va faire des journées un peu plus pour que notre programme tienne debout. Merci Étienne.
J'espère que s'il y a des discussions, on est là. Merci à vous.